monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal de tout de suite. Les principaux titres de l'actualité de ce mardi 5 juillet.
L'inflation atteint son plus haut niveau en 23 ans, 6% en juin. Le gouvernement officialise le virage sur la sortie nucléaire de Moon Jae-in. Coup d'envoi en Suisse de la conférence sur la reconstruction de l'Ukraine. Et enfin, K-Pop World Festival, l'audition en Allemagne couronnée de succès.
On commence avec de l'économie. L'inflation poursuit sa course. En juin, la hausse des prix à la consommation atteint 6% sur un an, selon l'Institut national des statistiques. C'est un chiffre jamais vu depuis novembre 1998, année où la Corée du Sud avait connu une grave crise financière. Après 4,1% en mars, 4,8% en avril et 5,4% en mai, les prix ont donc progressé encore de 0,6 points en un mois. Comme on s'en doutait, la valse des étiquette s'est généralisée à la quasi-totalité des produits. Pour être un peu plus précis, les prix des biens manufacturés et pétroliers sont respectivement en hausse de 9,3% et de 39,6% en lissement annuel. Ceux des aliments transformés et des produits agricoles, d'élevage et halieutiques ont augmenté de 7,9% et de 4,8%. Quant à la facture d'électricité et de gaz, elle a flambé de 11%. Dans le siège du relèvement de ces tarifs en avril et les services, eux, ont vu leur prix grimper de 3,9%. Et en ce qui concerne les prix des biens de première nécessité, et ils ont bondi de 7,4%, là aussi leur plus haut niveau depuis novembre 1998.
Le président de la République s'est engagé à placer le secteur public en première ligne pour surmonter les difficultés économiques auxquelles est confrontée la Corée du Sud. Lorsqu'il a présidé aujourd'hui le Conseil des ministres, Yoon Suk-yeol a évoqué le fait que l'inflation a grimpé de 6% le mois dernier et que son gouvernement a abaissé notamment les taxes sur les carburants et les droits des douanes afin de lutter contre la hausse des prix et d'ajouter que le secteur public prendra l'initiative pour se serrer la ceinture. Pour concrétiser cela, le chef de l'État a précisé que les entreprises publiques devront vendre leurs avoirs qui ne sont pas absolument nécessaires, réajuster la structure de leurs dépenses ou encore rationaliser leur gestion. Selon le président Yoon, les ressources ainsi générées devront être utilisées pour les plus défavorisés. Le numéro 1 sud-coréen a également promis de multiplier ses déplacements sur le terrain pour écouter ses concitoyens en difficulté et de présider en personne la conférence économique d'urgence chaque semaine. Dans le même temps, il a souligné la nécessité de réorganiser les différentes commissions affiliées au gouvernement pour réduire les dépenses de l'État.
On enchaîne avec la politique intérieure. L'Assemblée nationale a finalement élu hier son président et ses deux vice-présidents pour la seconde moitié de la législature qui s'étend jusqu'à 2024 et se 36 jours après le départ de leur prédécesseur. Ce retard est dû à un bras de fer extrême entre la première force de l'hémicycle, le Minju, et le parti du pouvoir du peuple, le PPP, et la formation présidentielle. À l'origine de cette preuve de force, la bataille pour occuper les fonds fonctions essentielles, en particulier celle de la commission permanente de la législation et des affaires juridiques, ainsi que la création d'une commission ad hoc chargée de se pencher sur les mesures destinées à achever les réformes du paquet dirigé par le Minju. Mais après maintes tractations, les deux camps sont parvenus hier in extremis à un accord pour élire le nouvel occupant du perchoir, une entente qu'ils ont qualifiée de concession. Dans sa prise de parole après son élection, le nouveau patron du Parlement, Kim Jin-pyo, a exhorté tous les mouvements représentés dans l'hémicycle à coopérer pour normaliser rapidement les travaux parlementaires. Cela dit, il semble toujours laborieux de répartir les présidences des commissions permanentes, sans oublier le lancement de la dite commission spéciale.
L'administration de Yoon Suk-yeol a dévoilé aujourd'hui en Conseil des ministres les grandes lignes de sa politique énergétique. Il s'agit pour l'essentiel de revenir sur l'engagement pris par sa prédécesseure pour la sortie du nucléaire. Le plan annoncé prévoit de porter jusqu'à 30% la part de l'électricité nucléaire dans le mix énergétique, et ce à l'horizon 2030. Le chiffre était de 27,4% l'an dernier, et le gouvernement de Moon Jae-in avait envisagé de le réduire à 24% d'ici cette échéance. Conformément à cette nouvelle politique, les travaux de construction des deux réacteurs Shin-Hanul 3 et 4 suspendus en 2017, quelques mois après la prise de fonction de l'ex-chef de l'État, seront relancés. Et la prolongation d'activité sera aussi accordée aux centrales actuellement en service. Le gouvernement en exercice envisage par conséquent de réajuster l'objectif de 30% d'énergie renouvelable en 2030, fixé par le précédent exécutif. Il a par ailleurs annoncé son intention de booster de nouveaux projets énergétiques. Il s'agit entre autres d'exporter 10 réacteurs atomiques et d'investir quelques 400 milliards de won pour développer les petits réacteurs modulaires de conception nationale. De plus, le nombre de start-up dans l'énergie doublera aussi d'ici 2030 contre 2500 en 2020.
La préparation du lancement du premier orbiteur lunaire sud-coréen se concrétise. Si tout se passe bien, la sonde surnommée Tanuri sera tirée le 3 août depuis la base de Cap Canaveral en Floride aux États-Unis à bord de la fusée Falcon 9 de SpaceX. À un peu moins d'un mois de ce défi historique, son transport vers le centre spatial américain a commencé. Pour cela, l'orbiteur a quitté ce matin l'Institut de recherche aérospatiale Le Carré, situé à Daejeon dans le centre du territoire. Il est placé dans un conteneur capable de conserver les températures et l'humidité nécessaires et d'absorber les chocs extérieurs. Direction d'abord l'aéroport international d'Incheon, puis d'Orlando en Floride. Il sera ensuite déplacé en voiture jusqu'au site de lancement pour y arriver le 7 juillet. Pendant environ un mois, tous les derniers préparatifs seront menés. Après son départ de la Terre, la sonde naviguera pendant environ 4 mois avant de se placer en orbite lunaire en décembre sur une trajectoire dite de transfert lunaire balistique, le BLT, un itinéraire plus long que les routes couramment utilisées pour atteindre la Lune, mais considéré comme efficace puisqu'il valorise l'économie de carburant. Tanuri mènera une mission scientifique pendant un an à une altitude de 100 km. Il s'agit notamment de déceler les sites d'atterrissage potentiels sur la Lune.
Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
Sur le front sanitaire, l'épidémie de coronavirus montre des signes de recrudescence selon le nouveau bilan quotidien. En l'espace de 24 heures, 18 147 nouveaux cas positifs au Covid-19 ont été répertoriés, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis 40 jours. Il s'agit aussi d'une hausse de quelques 12 000 contaminations sur une journée et d'environ 8 000 en une semaine. 171 de ces infections supplémentaires sont importées, donc à 3 chiffres pour le 12e jour de suite, et ce dans le sillage de la levée de l'obligation d'isolement pour les arrivants de l'étranger et de l'augmentation des vols internationaux. En ce qui concerne le taux de reproduction, il a dépassé le cap symbolique de 1 la dernière semaine de juin à 1,05, et ce pour la première fois en 4 mois et demi. Face à cette situation préoccupante, les autorités sanitaires ont appelé au respect du protocole sanitaire, en particulier dans tous les lieux clos et à haute fréquentation, ainsi que sur les sites touristiques.
Dans l'actualité internationale, les représentants de 38 nations de la Corée du Sud, de l'Union européenne et de 14 organisations internationales se sont réunis hier pour la conférence sur la reconstruction de l'Ukraine qui se tient à Lugano en Suisse jusqu'à aujourd'hui. Le premier ministre ukrainien a fait le déplacement en personne, Denis Shumial, alors estimé à au moins 750 milliards de dollars le coût du redressement de son pays. Selon lui, 300 à 500 milliards de dollars de cette somme pourront être couverts par la saisie des avoirs de la Russie et de ses oligarques gelés et dans le cadre des sanctions internationales contre Moscou. Et l'urgence est de reconstruire les installations de première nécessité comme les réseaux de distribution d'eau ou les ponts. Le pays du matin clair a été représenté à la réunion par son second vice-ministre des Affaires étrangères, Lee Do-hoon.
On termine avec un mot de culture. La K-pop a fait son grand retour à Berlin en Allemagne. Après 3 ans de suspension en raison de la pandémie de Covid-19, l'audition de K-pop World Festival a bel et bien eu lieu. Les candidats ont montré leurs meilleures performances et le public leur a répondu avec un grand enthousiasme tout en profitant des festivités. Avant de monter sur scène, les participants ont essayé de lutter contre le trac dans le couloir. Des scènes de préparation se sont également improvisées à l'extérieur de la salle de concert. L'une d'entre eux a avoué au micro de la KBS être nerveuse à l'idée de monter sur scène. Cependant, elle semblait être déterminée à délivrer sa performance qu'elle a préparée avec joie. Ce sentiment de bonheur a bien sûr été partagé par tous ceux qui étaient sur place. La réaction enthousiaste des spectateurs présents au rendez-vous n'avait rien à envier à celle que l'on peut observer lors de vrais concerts donnés par des groupes d'idoles de la K-pop. À travers toute l'Allemagne, 130 personnes pour un total de 46 équipes ont participé à cette compétition passionnée. Environ 300 places étaient déjà vendues il y a une semaine. La qualité des scènes proposées par les participants était telle qu'il était difficile de sélectionner les gagnants. Les 3 meilleures équipes, y compris celles ayant remporté le Grand Prix, se qualifieront pour participer à la finale qui se tiendra en septembre en Corée du Sud. Les amoureux de la musique populaire sud-coréenne ont affirmé avoir pris goût au spectacle grâce à cette dernière. Ils sont même prêts à révéler les chansons qu'ils aiment à travers le monde. Parallèlement, près de la salle de concert, un espace dédié à la découverte de la culture coréenne a été installé. Les visiteurs ont pu jouer des instruments traditionnels coréens. Au vu de ce véritable succès, le Centre culturel coréen en Allemagne s'est engagé à poursuivre ses efforts afin de permettre aux habitants locaux de découvrir non seulement la K-pop, mais aussi la culture du pays du matin clair. L'audition tenue dans la capitale allemande illustre ainsi la passion intacte des fans du monde entier pour la K-pop. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Yoon Hae-jung et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et bonne soirée sur KBS World Radio.